Nous sommes dans cette campagne de 4 semaines, 4 dimanches, avec ce thème, l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. 2e semaine, après avoir parlé de l'unité, la première semaine est dans les groupes de maison et dans les lectures quotidiennes, nous allons parler de singularité. Avec le titre qui nous est proposé, singulier, au pluriel. Singulier au pluriel, c'est assez singulier comme titre. Singulier qui peut vouloir dire aussi étrange. Alors je ne vais pas vous embrouiller avec tous les sens de singulier. Nous allons lire le texte qui nous est proposé, Éphésiens 4, versets 7 à 16. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Dieu lui donne dans son œuvre. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile ou évangélistes, et d'autres encore comme bergers et enseignants, ou pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Je m'arrête là pour... Ouais, c'est pas grave. La construction du corps de Christ. Ou l'édification du corps de Christ, c'est marrant. L'édification, c'est pour un bâtiment, le corps, c'est un organisme vivant. Bon, cependant, chacun de nous, ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa fortunité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacun, à chacune de ses parties. En fait, ce texte n'est pas si mystérieux que cela, même s'il est un peu dense, hein. Pas si mystérieux, pas si singulier, pas si étrange. Il nous parle des dons. 5 fois le mot don en grec, dans la langue dans laquelle a été écrite le Nouveau Testament, 5 fois le mot don, ou donner, ou le verbe donner, avec un summum de redondance dans le verset 8 que nous n'avons pas lu, il a donné des dons, littéralement, il a donné des dons. Dieu donne. Alors, question style, il a donné des dons, on peut faire mieux, mais Paul n'en fait qu'à sa tête, inspiré qu'il est par le Saint-Esprit, alors qu'il écrit cette lettre à une église locale comme la nôtre, même si cette lettre sera lue à travers tout le Proche-Orient ou le bassin méditerranéen plutôt, dans toutes les églises, elle s'adresse à une église locale, d'Éphèse, en Asie mineure, en Turquie actuelle. Il y a des personnes, les carriers qui ont été visités Éphèse cet été, les ruines d'Éphèse. Une église que Paul apprécie vraiment. D'ailleurs, quand il quitte la ville d'Éphèse, les responsables de l'église d'Éphèse, en quittant Paul, pleurent sur la plage. En disant adieu à Paul. Il est resté plusieurs années à Éphèse. Il a créé le premier institut biblique du monde à Éphèse. Une église qu'il aime. Alors, nous avons déjà parlé des dons ici dans cette église et dans la série de 1 Corinthiens en 2024-2025, on est tombé sur le chapitre 12 que Daddy a lu tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi fait une formation sur les dons, donc j'ai l'impression de me répéter un peu, mais ce ne sera pas la première fois que je me répète. C'est intéressant comme formule, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la première fois que je me répète. Et il y a d'autres textes qui en parlent aussi. Romains 12, 1 Pierre 4, et nous allons voir un petit peu quelles sont les similitudes que peut avoir Éphésiens 4, que nous avons lu, avec ces autres textes, et aussi peut-être les particularités ou les singularités de ce texte d'Éphésiens 4. D'abord, les similitudes. Et première similitude, l'accent sur la variété. Chacun a reçu un don particulier. Verset 7, a été donné en particulier. C'est une singularité. La grâce a été donnée en particulier. Et puis dans 1 Pierre 4, 10, à mettre en parallèle, c'est un de mes versets préférés, chacun a reçu un don particulier selon la grâce infiniment variée de Dieu. Et la grâce a affaire avec les dons. Ce qui est aussi une formule un peu pléonasmique, puisque la grâce, c'est un don. La grâce, c'est quoi la grâce? C'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, qui nous donne gratuitement son amour, son pardon. Et la grâce, c'est un don. Et la grâce nous offre des dons. Et Paul même parle du fait d'être apôtre, son don d'apôtre, comme une grâce. Tout est grâce. Et pour bien parler de cette variété de la grâce de Dieu, j'en arrive à cette image que j'aime beaucoup, que j'ai déjà donnée à la formation, excusez-moi, mais du prisme. Vous voyez, à gauche, c'est une seule ligne, et puis la lumière se réfléchissant dans le prisme éclate en plusieurs couleurs, singulières, variées. Et ça, c'est nous. La grâce de Dieu qui passe au travers du prisme de l'Église se décompose en grâces et dons divers et variés. Michael Griffiths. Une variété qui est une source de louange. Merci Seigneur, parce que nous sommes variés et différents. Vous savez que le parfum d'une rose ou d'une rose est fait de 400 molécules différentes. Magnifique, ça sent bon une rose, grâce à ces 400 molécules différentes. Mais ce qui est une source de louange, la différence, la variété, peut devenir une source de tension. Qui dit variété, dit différence, et la différence constitue un défi pour chacun d'entre nous, un défi à relever avec amour et douceur. On en a parlé la semaine dernière en parlant d'unité. Faites-le avec amour et douceur. Et on en a parlé aussi hier, vendredi soir au groupe de maison du Canet. On a passé une belle soirée. Je vous encourage à participer au groupe de maison. Mais on a reparlé de l'unité. On était encore la semaine 1. Et comment vivre l'unité dans nos différences, de se parler en vérité, dans la vérité de notre différence, tout en conservant l'unité. On a discuté longtemps là-dessus, parce que on n'était pas tous unis, si on était unis. Et la réponse était dans le verset 15, en fait, verset 15 de Éphésiens 4, « Dire la vérité avec amour ». Alors, là aussi, c'est une belle forme, c'est une belle parole, une parole que l'on prend pour soi. Dire la vérité avec amour, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus facile à faire quand on se trouve dans un débat animé, passionné, où il nous semble important de prendre position pour la vérité, n'est-ce pas, dans les débats, pour la vérité. Mais Dieu, dans sa parole, ne nous demande pas d'être d'emblée parfait, mais nous invite à minima à simplement penser à commencer un chemin de perfectionnement. Quand j'ai envie de dire la vérité à mon prochain, alors on pourrait aussi avoir cette phrase de Ponce Pilate, oui mais qu'est-ce que la vérité? Et discuter de la vérité, est-ce que c'est ma vérité? Et on doit s'accorder pour dire qu'elle est quand même subjective, hein. Ou dire à l'autre ces quatre vérités. Ces vérités que j'ai envie de dire sur lui, les quatre. Donc il y a toute cette question de vérité, oui, ok, mais de penser à le faire avec douceur, y penser, tout simplement, y penser, et mettre cette pensée de la douceur dans mon esprit, dans mon cœur. Et j'aime ce mot d'intentionnalité dans la vie chrétienne. De ne pas vivre au gré des circonstances ou de mes émotions, même s'il faut tenir compte de ces émotions et des circonstances, mais de vivre avec l'intention de faire attention à l'autre, à mon prochain. C'est un chemin qui s'ouvre à nous. Aurons-nous l'intention d'y marcher, de dire la vérité avec amour, dans notre variété, dans ce défi de la différence. Et puis le deuxième point, cette similitude, c'est la finalité des dons. Et cette finalité, c'est grandir ensemble. Alors là, il y a toute une série de verbes que j'ai soulignés tout à l'heure à la lecture. Il y a le verbe édifier, qui s'adresse oikodoumeo, oikos, la maison. Et c'est l'édification ensemble, on grandit ensemble. Il y a aussi cette notion de devenir adulte en Christ. Il y a au verset 15, croître vers lui. Et au verset 16, il y a les mots de coordination, de cohérence, de croissance et de édification. Et j'aime cette image-là, c'est à la fois une pyramide humaine, mais c'est un peu artistique. Et on s'édifie, les corps ensemble s'édifient et grandissent ensemble. Et on le voit dans le texte d'Éphésiens 4, il y a à la fois, semble-t-il, une croissance individuelle et une croissance collective. On grandit individuellement, mais on grandit ensemble également. Alors je les distingue, mais il me semble que Paul, l'auteur, ne le fait pas. Et il semble que ces deux croissances vont de pair, l'Église grandit et moi avec, ou je grandis et j'entraîne l'Église à grandir avec moi, ou parce que je grandis, l'Église grandit, je ne sais pas comment il faut le dire. Et on pourrait simplement résumer cela en disant, nous avons besoin les uns des autres pour grandir ensemble. C'est des pléonasmes et des redondances, mais je les aime. Et puis, il y a cette expression « devenir une personne adulte à la stature parfaite de Christ ». Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, d'homme et de femme. Arriver à maturité. De cette manière, la plénitude qui nous vient de Christ, à la stature parfaite de Christ. Grandir en Christ, grandir vers Christ, croître vers lui, verset 15. Jésus, notre point de repère, Jésus, l'exemple. Imiter Jésus. Quand nous étions à Orléans, il y avait un jeune qui était là, qui s'appelait Josh. Il était américain, mais il était d'origine juive. Il était juif. Et il nous raconte son témoignage. Et il raconte que c'est une jeune fille de son lycée. Je pense qu'il ne l'a pas dit, mais j'avais l'impression qu'il était un petit peu amoureux d'elle. Mais que la réciproque n'était pas vraie. Cette jeune fille était chrétienne au lycée et elle lui a simplement donné une Bible. Mais Josh, juif, a lu la Bible. Il a lu le Nouveau Testament. Et la personne de Jésus l'a transformé, l'a impacté. Mais c'est qui ce type ? Excusez-moi l'expression. Il est formidable. Et je veux lui ressembler. Et si on est un petit peu, relisons les évangiles et retrouvons cette attirance vers Jésus. Ce type, je veux lui ressembler et grandir à l'image du Christ, à la stature parfaite de Christ. Alors, je mets tout mon enthousiasme à en parler, mais lundi matin, ça va être un petit peu plus difficile. Hein. On va se dire, nous ne sommes pas Jésus quand même. Hein. C'est le Fils de Dieu. Il avait quand même des moyens que nous n'avons pas. On se dit que la marche est un petit peu haute pour atteindre la stature de Christ, ou la pleine stature, la plénitude de la stature de Christ. Nous ne sommes que des hommes et des femmes bien fragiles. Oui, certes. Mais Luther, le réformateur, nous appelle à devenir des petits Christ. Nous sommes appelés à devenir des petits Christ. Petits, en toute humilité, effectivement. Mais des Christ quand même. Quand nous étions jeunes, il y avait un best-seller parmi le groupe de jeunes de Bruxelles, 120 jeunes tous les mercredis soirs, quasiment une église. Et ce livre s'intitulait « Que dirait Jésus ? Que ferait Jésus à ma place ?» Voilà une question qu'elle est bonne. Peut-être pourrions-nous nous la poser plus souvent. Et puis, les particularités, les singularités d'Éphésiens 4 quand il parle des dons. D'abord, il va nous dire que les dons, c'est Jésus-Christ qui les donne. Alors que les autres passages, en particulier 1 Corinthiens 12, qui donne les dons spirituels ? Voilà une question. L'Esprit. Et là, Paul nous parle de Jésus-Christ comme celui qui donne les dons. Verset 11, « Et lui-même a donné, c'est lui-même qui a fait don de certains hommes. » Ça vient de Christ. Et vous allez dire, le résultat est le même, le Saint-Esprit, Jésus, mais c'est intéressant de mettre l'accent sur Jésus, ça vient de lui, c'est lui qui donne. Et en ce qui concerne l'Église, ça prend tout son sens. C'est Jésus qui dit à Pierre, Matthieu 16, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et c'est pour cette Église, Éphésiens 5, qu'il se livre lui-même, qu'il se donne lui-même. Il se donne pour l'Église et il donne ce qu'il faut à l'Église pour qu'elle vive, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle témoigne, pour qu'elle soit un phare dans ce monde, une lumière dans ce monde. Et puis, deuxième particularité, singularité, dans Éphésiens 4, c'est la personne qui est le don. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs ou bergers enseignants. Il a donné, il a fait don de ces personnes. La personne qui est le don. Ce sont pas des dons à rechercher, même si c'est utile de le faire, on l'a fait pendant la formation. Et Paul, dans 1 Corinthiens 12, dit « Aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous montrer une voie par excellence. » Et cette voie, c'est l'amour, dans 1 Corinthiens 13. Mais là, le don, c'est la personne elle-même. Cet apôtre a été donné à l'Église. Ce prédicateur de l'Évangile, ou l'évangéliste, a été donné à l'Église par Jésus-Christ. Ce pasteur a été donné par l'Église, ce pasteur berger, cet enseignant a été donné par l'Église, pour l'Église, à l'Église. C'est la personne qui est le don. Et toi aussi, tu es un don pour l'Église. Mais oui, Dieu distribue ses dons, mais chaque personne est un don pour l'Église. C'est pas un don, ici, dans Éphésiens 4, c'est pas un don que je reçois, mais c'est un don que je suis. Et je trouve ça très rafraîchissant de mettre l'accent là-dessus. Je suis don pour l'Église. Et ça m'amène à deux conclusions par rapport à ça. Deux conséquences. Reconnaissance, dans le sens de dire merci envers Dieu pour ses dons à l'Église qui nous permettent de grandir. et dans les lectures quotidiennes de la campagne, lundi, demain, il y a toute une méditation sur Abraham, tous ceux qui nous ont précédés par la foi, dans la foi. Reconnaissance pour les personnes qui m'ont été données sur mon chemin de foi, sur mon chemin de vie. J'en cite quelques-uns pour moi, un petit peu comme un hommage que je leur rends. George Winston, le frère de John Winston qui a fondé la faculté de Vaux-sur-Seine. Ben, le frère, il exerçait, ou il sévissait en Belgique, et il était implanteur d'églises. Il posait les fondations pour les églises. Il était apôtre. Et un beau jour de 1985, lui, alors qu'il était directeur de l'Institut biblique belge, 30 ans de plus que moi, sonne à notre porte et nous demande à Yvonne et à moi de faire partie de la prochaine équipe d'implantation d'une église dans un quartier de Bruxelles, à Woluwe-Saint-Pierre, à Stokkel. Et j'ai vécu avec lui d'énormes, de belles années de formation, de rire. Beaucoup, un apôtre que Dieu a donné à l'Église en Belgique et qui m'a été donné aussi sur mon chemin. Et puis, le deuxième, en parlant d'enseignant, je pense à Henri Blocher, qui a été le doyen de la fac de Vaux, qui a écrit des livres, qui est pour moi le meilleur, peut-être même le seul, vraiment théologien évangélique. Et j'ai eu la chance de suivre son enseignement. Il était limpide, éclairé, mais bibliquement fondé, fidèle à l'Écriture, ouvert au dialogue, mais fidèle à l'Écriture. Et j'ai pu bénéficier de son enseignement. Je me souviens, il était, comme vous dites ici, peut-être pas une tronche, une tête, mais en même temps avec un cœur énorme. Et avec beaucoup d'humilité, quand nous sommes arrivés en 87 à la faculté de Vaux-sur-Seine, il y avait plein de monde dans le hall, là, et lui, il nous a vus, il a fait 20 mètres qui nous séparaient pour fendre la foule, et il a dit « Monsieur Van der Douce », en s'abaissant. « Madame Van der Douce », bien prononcé, parce que sa grand-mère était hollandaise. Et « Merci à Dieu d'avoir donné Henri Blocher pour son église ». Et je pense aussi à Timothée Keller, dont je vous ai parlé. J'espère que vous avez lu des livres de Timothée Keller. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Je le mettrai dans le rang des évangélistes qui parlent de l'Évangile, qui a écrit un livre de 400 pages sur une église centrée sur l'Évangile et qui a écrit des petits livres sur le fils prodigue, absolument incroyable. Merci à Dieu d'avoir donné Timothée Keller. Et puis, à côté de ça, il y a toute une foule de gens, l'image là, que Dieu m'a donné pour grandir dans la foi. Et ça, c'est la lecture quotidienne de mercredi, avec un texte de Romains 16, où Paul salue tout le monde à Rome, dans l'église de Rome. Toute une liste de personnes qui ont été là pour vous faire grandir. Et comme je partage ce matin, mais je pense à mon père qui est mort en 96, mais mon père un doué pour l'encouragement, ma mère une douée pour la libéralité, la générosité, ma sœur douée pour l'écoute, mon épouse le don de la foi, puis à vous qui m'avez aidé à grandir. Merci d'avoir donnez chacun d'entre vous sur mon chemin de foi. Et donc, avec toutes ces personnes, je veux être reconnaissant et dire au Seigneur merci de les avoir donnés avec leur singularité. Merci de les avoir donnés à ton Église dont je fais partie. Et vous, à qui pensez-vous? Pour qui pourriez-vous être reconnaissant? Qui vous a été donné et pour lequel ou pour laquelle vous pourriez être reconnaissant. Pensons-y cette semaine. Et puis, deuxièmement, avec le même mot reconnaître, se reconnaître moi-même, soi-même, comme un don pour l'Église, avec votre singularité, avec votre parcours, avec votre sensibilité, avec vos dons, vos charismes spirituels particuliers, vous reconnaître sans forfanterie, mais avec beaucoup d'humilité, mais pas de la fausse humilité, vous savez, cette fausse humilité derrière laquelle on se cache parfois pour ne rien faire ou pour ne pas s'engager. Non, se reconnaître simplement comme un don pour l'Église. Et l'Église, comme un projet de Dieu pour le monde, ce n'est pas rien. Ce monde que Dieu aime, mais qui ne va pas si bien que cela, et Isabelle nous le rappelle dans ses prières chaque dimanche, un monde désespérant, un monde brutal et violent, un monde qui idolâtre l'argent et le pouvoir, mais un monde qui a tellement besoin d'un lieu de grâce, d'un lieu d'accueil, d'un lieu d'espérance, un lieu où l'on parle de liberté, d'égalité et de vraie fraternité. Et non seulement on en parle, mais on le vit. Et ce lieu, ce projet de Dieu, c'est l'Église. Et Dieu te donne, avec tes dons singuliers, pour faire grandir ce lieu qu'on pourrait appeler le royaume. Pour Christ et son royaume, par la grâce infiniment variée de Dieu, et pour sa gloire éternelle. Amen.